Bonsoir à toutes et à tous. On est ravis de vous retrouver pour Parler Temps qui court, qui rencontre un ou une artiste tous les soirs pendant une heure. Ce soir, Édouard Baer.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux taper, péter, péter.
Ça y est, je suis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. ça résume.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Parlez-t-on qui court.
Marie Richeux avec Édouard Baer.
Ramasser la peau de leur voix à l'ombre de leurs gestes.
Tout ça pourrait être l'histoire d'un téléphone pas branché qui sonne pour de faux sur la scène d'un théâtre et dans le combiné duquel résonnent des heures graves de l'histoire, la voix chérie de personnes chéries, un souvenir de film ou le grand blanc silencieux d'une angoisse. Parfois, il suffit d'accrocher une pancarte au cou de son père avec un nom pour qu'il fasse entrer Jean-Paul Belmondo dans l'image. Parfois, il suffit d'entendre une voix plus ou moins bien imitée pour qu'elle fasse entrer des fantômes sur la scène. Dans votre dernier spectacle, Édouard Baer, la nuit n'est pas calme, un type est enfui de quelque part, il met le pied dans la porte d'un théâtre et il joue ce qu'il peut jouer de lui en attendant de sentir s'éloigner la peur de l'échec. Les élucubrations d'un type soudain frappé par la grâce, c'est le titre, on verra si c'était une bonne idée. Ça se joue en ce moment au Théâtre Saint-Antoine à Paris, bonsoir à vous et bienvenue.
Bonsoir, merci beaucoup.
Théâtre Saint-Antoine à Paris est tous les dimanches soirs. Un peu partout, parfois au bar du Bel Air à la Maison de la Radio, pour une émission qui s'appelle...
Lumière dans la nuit.
Très belle. Parfois dans cette émission, des voix arrivent d'ailleurs, et ben dans la nôtre aussi.
Alors ici, on retire son masque.
Mon mari a été empêché de venir par une chute de cheval.
Oh, ma chère Hélène... C'est une réunion d'hommes, exclusivement.
Et si je gardais ma barbe?
Non, dans ce cas, rien à dire.
Et c'est une voix qui arrive de loin, puisque c'est celle de Jean-Pierre Marielle, Édouard Baer, dans un film qui s'appelle « Que la fête commence 1975 ». Il est le duc de Bretagne, il a réuni les seigneurs, il y a une femme qui veut rentrer parce que son mari est parti, il lui demande d'enlever son masque. Une voix d'ailleurs, parce que c'est une voix dont vous parlez dans ce spectacle-là. Et je dis que vous parlez de voix chérie, et ça fait partie de celle que vous convoquez.
Oui, au théâtre, je n'aime pas tellement l'utilisation de la vidéo, des images au théâtre, alors que je trouve que la voix, faire entrer des voix sur scène, je trouve que ça crée quelque chose, quoi. Et à un moment, on entend des voix, on entend la voix de Pierre Brasseur, on entend la voix de Jean-Louis Trintignant, on entend la voix de Jean Rochefort, et puis à un moment, j'imite, j'évoque un peu comme ça des gens qui me font ou qui m'ont fait rêver, quoi, oui. Donc Jean-Pierre Marielle.
C'était rêver le mot, c'est le bon mot?
Ils m'ont fait rêver parce que en dehors des acteurs, moi, c'est des styles de vie. Je sais pas si les femmes, quoi, sur les écrivains, il faudrait pas les connaître, il faudrait juste lire leur œuvre, mais sur les acteurs, on aime bien, quand on aime les acteurs, on aime forcément les rôles qu'ils ont incarnés, puis on veut en savoir plus. Donc c'est très difficile aujourd'hui de considérer un acteur juste par ses rôles. Les Jean-Pierre Marielle, Noiret, Rochefort, Belmondo, cette fameuse génération du conservatoire. Marielle lui-même, il disait, il y a des générations d'acteurs comme il y a des cuvées pour le vin ou pour des musiciens, on n'y peut rien. C'est une bande de gens pour ma génération. Moi, je suis né en 66, c'était extraordinaire, on voulait en être. Alors après, quand on commence à être élève acteur, on veut rejoindre des gens, puis quand c'est à nous, ils ne sont plus là, quoi, voilà. Il faut s'y préparer.
Ça veut dire quoi un style de vie? Un style de vie qui vous aurait plu chez Marielle?
C'est une légèreté, pas sur l'approche du métier, hein, pas sur les textes, je crois que c'est des gens qui étaient très exigeants, c'est les premiers qui ont monté Pinter, tout ça, enfin, ils ont fait des choses étonnantes, mais on avait l'impression qu'il y avait un truc de camaraderie, de joie de vivre, un goût pour la vie, j'ai l'impression, il était torturé comme tout le monde, sinon il ferait pas ce métier-là. Mais il faisait passer quelque chose de à la fois bon enfant, de bon vivant, on a l'impression que ça pouvait, qu'entre tous les drames qu'on va forcément vivre, on pouvait un peu, c'était aérien, quoi, c'était, puis tout en étant, hors norme aussi, démesuré. J'aime bien les personnages, démesurés.
Dans cet extrait de film, il laisse entrer une femme, mais bon, il dit quand même qu'autour de la table, il y a que des bonhommes. Et j'avoue que quand même, dans cette pièce-là, dans celle que vous jouez en ce moment au Théâtre Antoine, même si vous évoquez quelques grandes actrices, on sent que les personnes qui vous ont marqué sont non seulement des hommes, mais aussi ce qu'on a pu appeler les grands hommes. Je pense évidemment à la fascination pour le discours de Malraux, mais aussi De Gaulle et Jean Moulin en même temps. Comment vous expliquez ça ?
Mais parce que c'est une admiration par identification, c'est pas une admiration extérieure. Il n'y a pas des listes de gens. C'est un truc, c'est une sorte de statut intérieur. Moi, je me disais souvent, qu'est-ce que machin aurait fait à ma place, en pensant à certaines personnes que j'évoque dans le spectacle, des gens de la vie imaginaire, artistique ou de la vie réelle. Et c'est vrai que je me mets pas à la place de femme. Je sais, voilà, c'est comme ça, mais ça veut pas dire qu'extérieurement je n'admire pas autant de grandes figures féminines que de grandes figures masculines, mais ça ne... Je crois que c'est ça qui... Voilà, je suis imprégné de ces gens-là.
Donc je dis, c'est un homme qui, on ne sait pas d'où il arrive, mais met le pied dans la porte d'un théâtre, et il va y passer quelques temps avec le public qui est là, et une des premières considérations qu'il a, c'est le titre. Comment on trouve le titre d'une pièce? Est-ce que c'est un bon titre ou pas? Et à quoi ça nous engage? Comment il est venu, celui-ci?
Écoutez... Je me rappelle plus du tout. Non, c'est des choses qui viennent comme ça. C'est parce qu'effectivement, on fait le titre avant le spectacle. Moi, le spectacle, je l'écris en le répétant. On s'est enfermé dans le théâtre pendant 2 mois. Et...
Pas complètement, quand même.
Non, je veux dire, pas 2 mois complètement, moins.
Oui.
Je sais plus. Enfin, on s'est enfermé vraiment. Je vous dis, un théâtre, c'est un endroit merveilleux. On n'a pas envie de sortir. Il n'y a aucun repère extérieur. Il n'y a pas de fenêtre. On ne sait pas l'heure qu'il est. On ne sait même pas. Il peut y avoir des catastrophes mondiales, des guerres. Et nous, on a l'impression que la chose la plus importante, c'est comment on va s'en tirer, comment on va trouver des idées. Et il fallait un titre, voilà, il fallait un titre qui soit à la fois assez large, assez... Je me suis presque adapté au titre. Une fois que j'avais le titre, j'ai fait le spectacle qui correspond. Non, mais ça m'amusait beaucoup. D'abord, c'était une chose sur la parole, c'est un spectacle sur la prise de parole, sur ce que c'est, pourquoi est-ce qu'on prend la parole, pourquoi est-ce qu'on est légitime à prendre la parole, pourquoi il y en a qui parlent et d'autres qui écoutent. Et alors, parfois, c'est les mêmes qui passent de l'un à l'autre, et parfois non, parfois ceux qui parlent sont pas ceux qui écoutent, parfois ceux qui s'écoutent parler, enfin c'est bon. Et donc ce que c'est que de parler, alors, élucubrer, je trouvais que c'était un mot parce que j'en connaissais pas bien le sens, et ça m'allait, je trouvais que la sonorité était formidable, et que concombre, curieux, curbitacé, je sais pas, élucubrer, je trouve que c'était formidable.
Et voilà. À grâce aussi.
Alors grâce, c'était parce que La grâce, c'est ce dont on rêve tous quand on fait des, quand on monte sur scène, on se dit il y a le travail, et puis et là ça ne suffit pas, quoi. Donc on espère être touché. On se dit faites qu'il y ait de la grâce dans cette représentation. Donc c'est une peur et un espoir qu'on a chaque soir.
Vous préférez être de quel côté? Parce que vous faites un petit peu les deux. Vous parlez, Edouard Baird, beaucoup, dans plein d'aspects de votre métier. Et puis il y a un autre aspect, par exemple, on va dire à la radio, et puis parfois sur scène et au cinéma, vous écoutez.
Dans la vie, je suis plus un poseur de questions qu'un raconteur d'anecdotes. Je suis pas à table ou au bistrot ou dans la rue. Je suis pas très bon pour parler. En fait, je pose trop de questions. Parfois, je me fais engueuler. On me dit arrêtez pas ton émission de radio. Bon. Mais j'adore les rôles d'écoute aussi. Je trouve que c'est formidable de jouer les silences. Et là, pour le moment, le spectacle, je suis en train de le découvrir. Au fur et à mesure, je rajoute des silences. Quand on a un peu plus confiance, on finit par allonger. On laisse le temps pour les mots d'arriver jusqu'au dernier rang. Et puis, c'est gracieux, hein, les silences sur scène et au cinéma aussi. Je trouve ça merveilleux.
À la radio, pas mal aussi.
À la radio, c'est plus compliqué, le fameux silence qui suit. Ce qui est formidable à la radio, quand vous êtes en position interviewée, c'est que quand on vous pose une question embarrassante, elle est embarrassante pour celui qui a posé la
Exactement,
question. Alors
toujours.
Que la télévision est embarrassante pour celui qui ne répond pas.
Parce que quoi, il n'y a pas d'image.
Ah, parce que le gros plan est sur lui. Tandis que le gros plan et la radio, il est sur celui qui vient de parler.
C'est aussi un spectacle où il y a quelqu'un qui écoute, et c'est un contrepoint intéressant, Edouard Baird, parce que cet homme qui entre un peu par hasard dans ce théâtre, il se trouve face à un décor de café, de bar, et il y a un garçon de café, et il va être l'oreille, il va être une sorte de point comme ça, un peu le je sais pas pourquoi je pense au nord-ouest du spectacle, ça va être le point du nord-ouest.
Ah, pas mal, d'accord, oui.
Et ce garçon de café, il a quoi comme place dans l'écriture, dans la manière dont ce spectacle s'est inventé?
Alors c'est drôle. Alors, au début, je savais
pas
du tout.
J'ai dit non, Nord-Ouest,
non, mais Nord-Ouest, c'est bien. Il y a un truc un peu américain, il y a un truc un peu North by Northwest, un
oui,
peu
je sais pas, c'est vraiment
Sam Shepard, un peu des trucs comme ça. Non, on imagine un truc de cowboy, un peu. C'est au Nord-Ouest du spectacle, ouais. Là où plus personne ne s'aventure.
Je pensais Finistère, moi. Vous voyez comment je suis, mais bon.
C'est brestois, le côté brestois
ouais,
du spectacle.
Mais bon, en même temps, il est pas aussi loin que ça. Bref, donc ce garçon
breton. Et ben, en fait, j'ai eu la chance quand j'ai commencé le spectacle, je savais pas du tout si c'était un monologue ou pas. Puis je voulais que ce soit une pièce de théâtre aussi. Je voulais pas. J'aime bien emmener les gens ailleurs géographiquement aussi. Je trouve ça de servir du théâtre pour ça. C'est ça que je trouve parfois décevant dans le stand-up. C'est que les mots sont bons, mais c'est dommage qu'ils aient lieu là. Je trouve que dans le stand-up, on devrait dire « Tiens, vous êtes tous avec moi dans le Finistère ou à Miami. »
Aussi bien, on peut le faire. Si les mots sont suffisamment évocateurs, on peut très bien dire « Ok, on n'est pas ici, on est ailleurs. »
Oui, mais on s'en sert assez peu dans le stand-up. Il y a trop le côté ici et là. Je trouve la chance quand on s'enferme dans une salle de spectacle, c'est que les gens sont d'accord. Les gens acceptent des conventions délirantes. Ils acceptent de se taire, ils acceptent d'être dans le noir, ils acceptent d'écouter, ce qui est déjà rare dans la vie, qu'on ait une heure et demie pour écouter. Et ils acceptent même si on bouge un bout de plastique bleu, on leur dit que c'est la mer, ils y croient. Donc c'est dommage de pas le faire, quoi. Quand on arrive dans un tel état d'enfance comme public, autant emmener les gens, dire bah oui. Alors ça, c'est une digression, pardon. Et puis j'ai demandé à un camarade comédien qui s'appelait Christophe Médé, je lui ai dit, est-ce que tu veux bien venir aux répétitions? C'est peut-être de la figuration. Je vais être dans un bar, il y a un barman, quelqu'un qui recueille les confidences. Alors je m'étais demandé, est-ce que c'est un pianiste de bar ou un barman? Alors au début, je vais faire le spectacle avec un pianiste. J'avais demandé à Gérard Daguerre, qui accompagne Depardieu et qui accompagne Barbara. Il n'était pas libre, donc j'ai changé le spectacle. Parce que je trouve que c'est très beau un musicien qui écoute et qui répond en musique. Puis on dit que les pianistes de bar, c'est des gens qui donnent du sentiment à l'ennui. Alors c'est un beau métier. Bon, et alors le barman, au fur et à mesure, a pris de l'importance parce qu'on s'est aperçu que c'était intéressant. Mais il a fallu la confiance de Christophe Méné, qui est venu aux répétitions en sachant pas s'il y aurait rien ou un peu.
Ce téléphone dont je parlais en tout début, en introduction, il est posé sur le bar, il est probablement pas branché, et il sonne et des choses s'y passent, comme s'il y avait dans le métier de comédien ou de comédienne un truc branché à l'ailleurs, quoi. Alors l'ailleurs, ça peut être à l'ailleurs, comme vous le disiez, à l'ailleurs de l'imaginaire, mais aussi à quelque chose de après la mort, de avec les fantômes, le coup de téléphone de ou bien de la femme qui attend à la maison avec les enfants. Vous voyez ce que je veux dire, Edouard Baer, ce téléphone, il est...
Oui, non, c'est pas mal. Ce que...
il est quand même assez important.
Alors le téléphone, déjà, moi je trouve il y a plein de types de téléphones différents. C'est d'abord, il y a aussi un hommage au coup de fil dans le théâtre de boulevard. Je trouve ça extraordinaire, je suis un fou des spectacles.
Et là, il y a des femmes comédiennes qui interviennent dans
ce
hommage.
Oui, parce que moi, mes grands modèles de théâtre de boulevard sont autant féminins que masculins. Jacqueline Maillard et Maria Paco, mais c'est aussi important pour moi que Céro Poiret, Jean-Jacques. Et ça, c'était des gens, je sais pas, ou Jean Le Poulain, je sais pas si vous rappelez ces pièces-là, genre au théâtre ce soir, tout ça. Si, c'est encore maintenant, parce que c'est, il y a la filiation, les pièces de boulevard d'aujourd'hui.
Si, je m'en souviens.
Vous êtes très jeune. Et alors ça, le téléphone sonne et paf, tout à coup, quelqu'un lance l'histoire et ça lui permet de raconter. C'est une façon d'être face publique aussi. C'est une façon de parler aux spectateurs sans en avoir l'air. C'est l'équivalent du cœur, en fait. C'est l'équivalent de l'aparté. Donc on est au téléphone, on dit, quoi? Comment? Tu arrives à 12 heures? Mais je ne suis pas prête. Comment? Quoi? Tu t'es mariée sans me le dire? Tu
as pris un amant?
Et tout, bon, c'est parti. Alors après, il y a tout dans le téléphone. Il y a évidemment le téléphone qui sonne. C'est une fameuse expression d'acteur. On dit, à partir de ce moment-là, le téléphone n'a plus sonné. Ça veut dire quelqu'un n'est plus engagé. On voit bien dans les mémoires d'acteurs, il dit le téléphone ne sonnait plus tellement à cette époque-là pour moi, voilà. Ça veut dire qu'il est, il est au...
C'est l'attente aussi, le téléphone, en fait.
C'est l'attente, le fameux l'être aimé, l'attente devant le truc, le téléphone va-t-il sonner, on voit bien les nuits, on espère que la personne va vous appeler. Et puis, il y a la fameuse voix humaine, hein. C'est vrai que c'est un truc d'imagination, le téléphone. Et puis, j'étais frappé par l'écrivain Patrick Modiano qui racontait son rapport au téléphone.
C'est marrant parce qu'en vous écoutant, j'ai souvenir d'un mémoire de maîtrise de mademoiselle Anne-Laure Chanel qui a fait un travail sur le fil du téléphone dans l'œuvre de Patrick Modiano. J'allais y venir.
Alors, Patrick Modiano, il est obsédé par la dernière trace des gens étant leur numéro de téléphone. Il a beaucoup travaillé avec des annuaires téléphoniques. Il a chez lui des annuaires téléphoniques depuis les années 50, 60, des choses étonnantes. Et c'est vrai que cette idée qu'on retrouve dans certains de ses livres de faire sonner le téléphone quelque part, ça fait, on a l'impression d'être dans l'intimité de la personne. Et il y a toujours cette tentation de continuer à faire sonner chez les morts. Et c'est vrai, je sais qu'il ne supporte pas, par exemple, d'effacer. Et j'avais eu la chance de le rencontrer. Il m'avait dit, on n'efface jamais le numéro de quelqu'un qui est mort de son agenda. Voilà. Si jamais le téléphone l'appelle par erreur. Et c'est vrai que si tout à coup vous avez le téléphone de quelqu'un par hasard, et vous le faites sonner, par exemple, si là on avait le téléphone de Jean-Pierre Marielle, le téléphone sonne. Et c'est une façon extraordinaire d'être lié encore aux gens.
C'est un spectacle, vous le disiez, sur la parole, c'est un spectacle sur les conventions théâtrales et sur la magie de ce que c'est. L'homme qui se retrouve sur cette scène dit « Tiens, c'est marrant, on dit rien, les gens rigolent, c'est extraordinaire, quoi. Il se passe quelque chose, c'est fou. » Et c'est aussi un spectacle sur... Moi, j'ai beaucoup trouvé sur la guerre, en fait. J'étais très, très frappée de l'omniprésence de la Seconde Guerre mondiale par des questions d'époque, par ce discours de Malraux au Panthéon, comme si c'était un espèce de point sourd de ce spectacle-là, qui, bien sûr, parle aussi de la peur de l'échec, enfin, de plein d'autres choses, mais... À un moment donné, je me suis dit, tiens, c'est fou, cette Seconde Guerre mondiale qui plane.
Oui, c'est étrange, 70 ans après, je me demande aussi, en le faisant, je me dis, mais est-ce que ça va pas séparer? Est-ce que c'est pas trop générationnel? Est-ce que c'est étrange d'avoir un type de 50 ans qui évoque tellement la Seconde Guerre mondiale? C'est parce que c'est un spectacle très intime, en fait, mais par hasard, enfin, il n'était pas prévu pour ça, c'est en le faisant. Et que moi, mon père, qui est mort il y a une vingtaine d'années, donc c'est une sorte de dialogue avec lui.
Du coup, vous mettez votre main devant votre...
Pardon, oui. Non, mais alors, et mon père avait fait la guerre, en fait, était dans la division Leclerc, a fait la libération de Paris, la fameuse deuxième DB, et c'était des sujets dont on ne parlait pas, donc il y a beaucoup comme ça, je crois que c'est hanté par des secrets de famille, ce spectacle.
Ah oui, c'est fou, je savais pas, mais alors donc, vous avez tant conscience de parler de la Seconde Guerre mondiale, parce que moi j'avais l'impression de l'entendre comme ça en oreille sourde.
Non, pas en concevant le spectacle, mais je vois bien que tous mes héros que je cite, comme Romain Gary, Malraux, c'est leur lien à ça, c'est... Et puis c'est ces engagés volontaires, c'est justement la première fois, c'est pas une guerre qui a été gagnée par l'armée de métier, c'est des sortes de francs-tireurs, c'est des sortes de pas de fantaisisme, mais presque, enfin c'est des gens très indépendants à Lille qui ont gagné cette guerre, c'est pas du tout une guerre d'armes, c'est pas l'armée française dans ce cas là c'est pas l'armée de 14-18.
Mais qu'est-ce qui vous touche encore dans cet imaginaire-là, qui est évidemment un imaginaire extrêmement important, structurant pour la France, structurant pour plein de choses, mais qui passe par un chemin très intime pour vous, Édouard Baird ?
Oui, puis je trouve que de toute façon, tes problématiques de résistants aux collaborateurs, c'est des problématiques qui s'opposent continuellement dans nos vies.
Qui s'actualisent, en fait.
Tout le temps, même hors politique, dans notre vie privée, dans le truc. Et comme c'est un spectacle aussi sur le courage et la lâcheté, beaucoup sur la lâcheté, sur l'abandon de poste, puisque mon personnage s'enfuit et lâche.
J'ai cru que vous alliez dire.
Donc je vais à un point extrême de ça, qui est ces années-là, où tout à coup, c'est l'un ou l'autre. Il n'y a pas de position modérée.
Sauf que le refus de l'obstacle, ici, est un obstacle sans trop dévoiler, qui peut-être a des grandes, grandes conséquences pour l'homme qui est sur scène, mais qui n'est pas une bataille.
Je pense qu'il le vit comme ça. Je pense que c'est le personnage, il vit chaque engagement comme une bataille. Je crois que dans la vie, les engagements qu'on peut mettre du combat partout, oui.
Grand bonheur avec ma mère, c'était de mettre la pièce dans le noir et d'entendre des retransmissions radiophoniques de théâtre. Alors là, qui nous bouleversait, qui nous transportait aussi. Avec Gary Cooper, parce qu'on était dans la fiction grâce à cela. Mon amie Marielle avait dit une chose très très belle, ce qui est gênant à la télévision, c'est l'image. Et avouez que c'est assez bien dit. C'était magnifique. L'actrice marchait sur un pavé et arrête de marcher dans les rues de Venise, on était à Venise. Hein ? C'était merveilleux. Hein, on ne nous imposait rien, on nous proposait. Puis après, nous avons eu la télévision. J'ai quoi là ? J'ai 23 ans, ou 24 ans. Je suis dans la même loge que Brel, Jacques Brel. Et alors, il chante tous les soirs deux chansons aux Trois Baudets, cabaret où nous étions à l'époque. Un nuage de fumée dans notre loge qui était minuscule, on fumait tous les deux énormément. Et puis un jour, je lui dis, mais je ne comprends pas, les gens sont toujours en train de te demander et de t'applaudir, et toi tu es assis dans la loge. Il faudrait peut-être que tu écrives autre chose. Et il me répond, moi ça ne m'intéresse pas, je vais être reporter à la télévision. Nous pensions à l'époque que la télévision allait changer le monde, qu'il n'y aurait plus de guerre, plus d'agression, que tous les peuples se connaissant n'auraient plus vilain vis-à-vis de l'autre, ce rejet de l'étranger. Moi, je ne regrettais qu'une chose. Je disais à Jacques, mais alors, il n'y aura plus d'accent provinciaux. Ça me dérangeait beaucoup. Et Jacques était sincère. Bien sûr, comme toujours, on y a cru.
Bien sûr que Jacques était sincère. C'est Jean Rochefort en 2012 au micro d'Arnaud Laporte sur France Culture dans les entretiens à voix nue. Jean Rochefort qui fait partie des gens que vous convoquez, Édouard Baird, sur la scène du Théâtre Antoine en ce moment. D'abord, en réécoutant cet archive, je me dis presque ce qu'on entend le plus, c'est son « 1 ». Que je fais pas très bien, mais qui ponctue et qui est comme une sorte de rebondissement de sa propre parole. Et évidemment, il parle de la radio écoutée avec sa mère dans le noir et puis de la télévision. Il se trouve que vous faites les deux. Vous avez toujours plus ou moins fait les deux. En tout cas, ça a glissé très vite de la radio à la télévision, Édouard Baird. Ça veut dire que vous, cette présence de l'image qui gênait Jean-Pierre Marielle à la télévision, ne vous a pas tant gêné que ça?
C'était très banalisé quand même. Après, je veux dire, il y avait le débat pour ou contre la télévision. Maintenant, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qu'on va dire? On va être pour ou contre Internet, pour ou contre l'ordinateur, pour ou contre l'électronique.
On peut avoir plus ou moins envie d'apparaître à l'image.
Non, mais moi, je suis pas du tout un fou de télévision. J'en ai fait pendant vraiment, ça durait 3 minutes. C'était le centre de visionnage à la fin de l'émission de Canal+. Après, je m'en suis pas méfié, mais je n'ai pas le goût. Je ne me sens pas à l'aise à la télévision tellement pour des apparitions brèves. Mais j'ai pas eu envie de faire ça. D'ailleurs, je préfère faire de la radio, du théâtre ou du cinéma. Je trouve que c'est trop. Je peux pas vous dire. Je trouve que même moi, j'aime bien l'idée qu'on fasse des choses pour eux, ou qui travaillent sur l'imaginaire, où il manque un sens comme la radio, ou bien qu'ils fassent qu'on sorte et qu'on se retrouve physiquement quelque part, comme une salle de cinéma ou de théâtre. C'est vrai que de faire un téléfilm, c'est pas que ça. Il y a des téléfilms beaucoup mieux que les salles de cinéma, mais moi, je suis pas pour qu'on fasse des choses pour que les gens restent chez eux entre eux.
Jean Rochefort, il est donc là, il est là avec les autres, il est là comme une sorte de figure un peu amie. Alors bien sûr, elles sont toutes un peu amies, ces figures-là que vous évoquez, Édouard Baird, mais lui, presque plus que les autres. En tout cas, il y a plus de sourire, voilà.
Oui, c'est vrai,
il y a plus de sourire.
Oui, mais c'est devenu une sorte de fil rouge du spectacle. Mais c'est un spectacle qui était construit tellement inconsciemment. Tout à coup, on avait retrouvé le téléphone de Louis Jouvet dans la loge du Théâtre Antoine. Et on a commencé à jouer sur scène, et puis à un moment, ça n'évoquait, c'était pas assez fort, c'était un peu glaçant. Le téléphone de Louis Jouvet, ça parlait vraiment à des gens très âgés, puis c'était pas incarné. Et tout à coup, à une répétition, on dit, mais non, c'est le téléphone de Jean Rochefort. Et tout à coup, ça a pris une autre dimension, il était là, c'est quelqu'un qui est encore très proche, qui, et pour moi, et puis je crois pour les Français, c'est encore des figures assez, enfin, dans quelques années, tout ça, nous-mêmes, on aura disparu des souvenirs, parce que le présent efface incroyablement plus qu'avant tout passé. Mais enfin, là, c'est encore... Oui, c'est une sorte d'ombre chaleureuse qui nous tient. Il y a sa main sur mon épaule de temps en temps, dans ce spectacle.
Dans cette archive, il est question des fameux accents provinciaux. Oh là là, ils vont enfin disparaître, ces accents-là. Et moi, je me dis, mais c'est fou, ça, c'est quand même un sacré fil rouge. Parce que dans La Bostella, qui est un film que vous avez réalisé, Édouard Baird, bon, il est question de fabriquer une émission. Et le type qui mène la bande a très, 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 très envie qu'il y ait des accents provinciaux. Et quand j'ai écouté la première des Lumières dans la nuit, donc fin août, sur France Inter, un des premiers types qui a pris la parole, il avait un accent du Midi extraordinairement identifiable. Je me dis quand même, ça le travaille, cette histoire d'accent provinciaux, Édouard Baird.
Oui, mais je trouve ça formidable.
Parce que La Bostella, c'était Sans vous vieillir, il y a...
20 ans ? Oui, 20 ans. 21, je crois. Ben j'adore les voix. Après, c'est embêtant parce que les gens disent, mais nous, on veut échapper à notre destin, on veut s'inventer soi-même. Et c'est vrai que si l'accent rappelle toujours d'où on vient, les accents sociaux, les accents... Mais en même temps, je trouve que les identités différentes, c'est une chose merveilleuse. On devrait pouvoir prendre l'accent de la région qui nous plaît, ou du milieu, ou du métier, comme on prend un patois, ou une langue, ou un argot d'un métier qui nous plaît. Mais moi, j'adore ça. Je trouve qu'à la radio, c'est vraiment formidable. Je me soucie de ça quand on fait des émissions, qu'il y ait des accents différents, des types. Mais les accents sociaux sont presque plus forts que les accents provinciaux aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a l'impression que on sent bien presque le patrimoine culturel de quelqu'un, hélas, à sa façon de parler. Donc j'aime bien quand on casse ça, quand quelqu'un a des voix plus rudes, a l'air d'en savoir plus que des gens qui ont des voix plus sophistiquées, quand il y a des gens dont on pourrait se moquer, qui vont dire, oh là, c'est un accent du soir, quelqu'un s'aperçoit que c'est un poète génial. Bon. Alors ça, moi, j'adore les divs, j'adore les voix, et donc j'adore les accents et ce qu'il y a caché dedans, oui.
Et la vôtre? Parce que finalement, il n'y a pas que des accents provinciaux. Finalement, chacune des voix,
oui,
qu'on veuille y échapper ou non, elle dit tellement de nous qu'elle dit beaucoup plus important que là où on vit, ou même éventuellement le chiffre qu'il y a sur son compte bancaire à la fin du mois. Vous aimez bien vous écouter?
Bizarrement, pas du tout, parce que je...
D'abord, non, bête question. Pas vous aimez bien vous écouter, mais elle dit quoi, votre voix?
Non, c'est pas une bête question, parce que... Moi, je sens quand je, par exemple, si je perds confiance, je sens que je pars dans des aigus. Quand j'entends des choses bizarres, le perte de contrôle de la voix, c'est une chose étonnante quand on s'entend. Elle dit comme beaucoup de gens, elle dit quand je suis calme, quand je suis en colère, quand je suis timide, quand je suis désagréable, quand on aime qu'on parle plus bas comme ça parce qu'on est amoureux de quelqu'un, puis tout à coup on s'énerve. Voilà, mais après, elle est. Moi, j'ai été élevé par des parents beaucoup plus vieux, donc j'avais une voix de vieux. J'ai eu cette voix-là à 15-16 ans, en fait, parce que les amis.
Quoi, cette voix-là, la voix que vous avez maintenant?
Ouais, j'ai eu très tôt. Donc c'était assez grotesque. À 16-17 ans, j'avais une voix ridicule. Après, on finit par avoir le physique de sa voix. Enfin, avoir l'âge qui va avec. Mais c'était assez étrange, quoi. J'avais une voix de vieux monsieur, oui.
Ça donnait quoi, du coup, dans la cour du lycée, d'avoir une. Enfin, de vieux monsieur?
Oui, enfin, un peu comme ça, de notables français. De vieux compagnons gaullistes, tout ça. C'était bizarre. Je remercie aux gens qui m'ont supporté à l'époque.
Non, mais du coup, il faut faire quoi? Il faut aller contre ça? Il faut.
Je me rends pas
compte,
on s'entend pas. Vous savez, la voix qu'on a dans notre tête n'est pas du tout celle que les gens entendent.
J'ai cru l'apprendre, ouais.
Quand on entend ça va enregistrer, on dit, ah merde, c'était donc ça. C'est comme quand des gens proches vous disent, tu étais très en colère, tu étais très désagréable en ce moment. Tu dis pas du tout, putain, qu'on écoute. Ah oui, effectivement, oui. Le cinéma, c'est étonnant pour ça. Parfois, certains metteurs en scène vous disent, ça va pas, là, tu l'as fait, c'est trop désagréable ce que tu viens de faire. Regarde, alors on voit l'écran. Ah oui, d'accord. Parfois, ça va beaucoup plus vite que des
explications. Plus que le corps et le visage.
Ah oui, moi, la voix, je trouve que ça trahit beaucoup plus, oui. On peut maîtriser beaucoup de choses, on peut maîtriser son visage, on peut être conscient, faire attention, fixer un regard même si le corps bat plus vite. On peut forcer son corps à aller quelque part, mais malgré lui, mais sa voix, elle nous échappe complètement, la voix, c'est comme la respiration.
Nous allions donc au Guignol des Tuileries et je me souviens extrêmement nettement de mon émotion. J'avais 2 ans. Nous entrions avec Gabriel dans cette enceinte où il y avait d'autres enfants et d'autres dames s'occupant des enfants qui attendaient. Le rideau était baissé et il y avait une certaine heure de l'après-midi où un rayon de soleil éclairait la scène, éclairait le rideau baissé. Et ce rideau baissé me terrifiait avec cet éclairage. Je pensais que lorsqu'il se leverait, des choses extraordinaires arriveraient de l'autre côté, des choses redoutables, peut-être même des choses monstrueuses. Et le type venait devant, le directeur du Guignol venait devant le Guignol et jouait un petit air d'accordéon. C'était aussi un instrument qui m'épouvantait, étant petit, parce que c'est un peu comme un serpent. Et puis le son qui en sort est un son absolument inhumain. C'est pas cette précision, c'est le contraire de la vraie musique, c'est le contraire d'un violon, on fait ce qu'on veut avec les cordes. Ce sont des notes qui tombent là où elles doivent tomber. Et il y avait cet air d'accordéon qui me bouleversait, et le rideau commençait à bouger. Il avait toujours un petit frémissement avant de se lever. Et je me souviens que très souvent à ce moment-là, j'ai fait pipi dans ma robe. Et depuis, j'ai toujours rêvé d'arriver un jour à faire un spectacle, un film ou une pièce de théâtre où certains spectateurs feraient pipi. Ça serait. Pour moi, c'est ça le spectacle.
J'ai eu tort, je suis revenue dans cette ville loin perdue où j'avais passé mon enfance. J'ai eu tort, j'ai voulu revoir le coteau où glissait le soir bleu et gris ombre de silence. Et je retrouvais comme avant, longtemps après, le coteau, l'arbre se dressant, comme au passé. J'ai marché les tempes brûlantes, croyant étouffer sous mes pas, les voix du passé qui nous hantent et reviennent sonner le glas. Je me suis couchée sous l'arbre, et c'était les mêmes odeurs. J'ai laissé couler mes pleurs. J'ai mis mon dos nu à l'écorce, l'arbre m'a redonné des forces, tout comme au temps de mon enfance. Et j'ai longtemps fermé les yeux, je crois que j'ai prié un peu, je retrouvais mon innocence. Avant que le soir ne se pose, j'ai voulu voir les maisons fleuries sous les roses. J'ai voulu voir le jardin où nos cris d'enfants jaillissaient comme source claire. Jean-Claude, Régine et puis Jean, tout redevenait comme hier. le parfum lourd des sauges rouges, les dahlias fauves dans l'allée, le puits, tout, j'ai tout retrouvé. Hélas. Bon, on aurait pu continuer, mais ça met le cœur battant, cette chanson de Barbara. Derrière la voix de Jean Renoir en 1954, Édouard Baird, ça fait partie des musiques que vous avez souvent avec vous. Comme un petit bagage. Est-ce à dire que c'est ça, l'enfance? Un petit bagage?
Oui, toutes les métaphores sur les valises lourdes à porter, comme ça, je ne sais pas. Moi, ce que je trouve formidable, parce que là-dedans, elle parle de la chanson que vous avez très joliment racontée, c'est le « j'ai eu tort » et le « hélas », alors qu'au contraire, bien sûr que non qu'elle n'a pas eu tort. Bien sûr que non, on n'a pas tort de se replonger dans ses souvenirs et de souffrir. On n'a pas tort d'aller vers la souffrance du tout, il faut aller creuser ça, parce que sinon...
Parce que
c'est
quoi?
Rien. Ben, je crois que si on s'évite la souffrance, on s'évite aussi ça veut dire qu'on s'évitera les plaisirs, les joies, les, si on n'aime pas les descentes, on n'aura pas de montée, si il faut accepter ça. Évidemment, la vie de la plupart des gens, c'est d'essayer déjà de s'en sortir, de bouffer, tout ça. Bon, déjà de, mais après, il faut provoquer la vie, il faut la chercher, il faut l'empoigner un peu, donc il faut creuser un peu dans la plaie, dans le truc, dans le... Et puis d'abord, elle a bien fait parce qu'il n'y aurait pas eu cette chanson, Barbara, si elle n'était pas allée là. Donc il n'y aurait pas eu
tout,
artistique. Hein. Et donc nous, on n'aurait pas ce moment-là, voilà. Donc c'est bien d'y aller, il faut y aller.
Jean Renoir, en 1954, qui se souvenait des guignols et du frisson quand le rideau s'ouvre, l'espèce de frayeur mêlée à la joie de se rendre compte qu'il va se passer quelque chose et qu'on est chanceux qu'il se passe quelque chose. Il est aussi question de ça, Édouard Baird, quand le rideau ne s'ouvre pas exactement, on va pas tout dire, mais bon bref, quand quelque chose commence au Théâtre Antoine à Paris, il est question que finalement... Vous avez de la chance de vous trouver sur cette scène-là. Et que peut-être qu'il a fallu mettre une sorte de pied dans la porte pour cet homme, mais qu'il a de la chance et en fait, il le goûte. Plus le temps passe, et plus il se dit « Hey, pas mal, en fait !» Sympa, finalement, de se trouver sur scène.
Oui, il y a de la jubilation aussi. C'est pas un spectacle spécialement mélancolique. C'est un type en fuite, puis qui s'accroche à ce qui vient aussi, quand même, qui tout à coup, alors après, il y a un truc un peu enfantin de s'accrocher, puis de mettre entre parenthèses, tout à coup, ça devient un peu vertigineux, parce que quand on s'enfuit de quelque part, et au début, on se dit, il faut que j'y retourne, puis après, on dit, ben là, on considère où on est, voilà. Mais c'est, oui, parce que c'est un des sujets du spectacle, c'est de savoir si c'est le fait de fuir quelque chose, c'est aussi de prendre quelque chose d'autre, quoi. Donc, ce qui se présente est pas si mal.
Ou alors que c'est pas forcément mieux à côté.
Non, mais c'est bien d'être là, mais moi, c'est ça que c'est extraordinaire au théâtre, c'est le fameux ici et maintenant, quoi. C'est là que c'est dingue. C'est pour ça, moi, que c'est très, très excitant. Et que là, depuis que j'ai commencé le spectacle, c'est presque, je suis angoissé quand j'y suis pas au théâtre. Là, je suis là, j'ai envie d'y retourner, j'ai envie d'être dans les loges l'après-midi. Il y a une intensité qui est dingue et il faut oublier qu'il y a d'autres choses à côté pour le spectateur et pour soi. Il faut arriver à créer une intensité, ça c'est passionnant. Enfin, on la ressent sur scène en tout cas.
Je parlais tout à l'heure de La Bostella, mais finalement, Ouvert la nuit, La Bostella, tout ça c'est des films sur qu'est-ce que c'est que d'être acteur, qu'est-ce que c'est que diriger des acteurs, qu'est-ce que c'est que donner sa vie à ce genre de spectacle en fait. Et vous, avec le temps, vous vous dites, en fait, je fais quoi?
Mais c'est plus à travers moi les métiers que je connais d'essayer de rejoindre d'autres choses qui sont qu'est-ce que c'est que la vie de groupe, qu'est-ce que c'est que la vie privée, la vie publique, qu'est-ce que c'est que est-ce que ce qu'il y a de détestation dans l'amour ou d'amour dans les gens qu'on déteste, qu'est-ce que c'est que
l'amitié,
la solitude, enfin bon, c'est un peu des thèmes un peu généraux, mais moi c'est à travers moi les métiers que je connais. Et quelle était votre question?
Pardon. Non, savoir si c'est finalement aussi une des questions qu'on se pose inévitablement, c'est-à-dire avec le temps, quand on fait ce métier-là, ou cette espèce de constellation de métiers vous concernant, est-ce qu'on se demande, mais bon, c'est quoi au fond?
Moi, ce qui me passionne, en tout cas, c'est de créer des moments, de créer des moments qui soient aussi forts que des œuvres, que des durées, quoi, d'essayer de faire des moments d'une telle intensité. Et c'est pour ça que j'aime le direct, par exemple, dans les médias, ou que j'aime le théâtre, c'est parce que, voilà, c'est qu'on est en train de créer et que tout est à recommencer le lendemain, donc il faut accepter ça aussi, pour qu'arrive ce moment, donc qu'on espère inspiré par la grâce, mais au moins d'énergie, d'intensité, après qui peut être une catastrophe aussi, forcément, il faut accepter la descente, il faut accepter que ça soit compliqué à organiser, tout ça, à faire monter, mais c'est une façon de casser l'horizontalité dramatique de la vie, ce long chemin vers la mort.
Ennuyeux, quoi.
Non, mais attendu, prévisible, quoi. Non, non. Enfin bon, c'est pas, je vais pas rien vous apprendre là-dessus, mais.
Pourquoi pas?
Bah oui, c'est-à-dire que quand même, il faut tenter des trucs, quoi. Si on a le luxe de pouvoir le faire, bien sûr.
Une solitude mortelle. Sur le zinc, tu peux blaguer, trinquer avec qui tu veux, avec n'importe qui. Mais l'ange se fait annoncer. Sois seul pour le recevoir. L'ange, pour nous, c'est le soir, descendu sur la piste éblouissante. Que ta solitude, paradoxalement, soit en pleine lumière et l'obscurité composée de milliers d'yeux qui te jugent, qui redoutent et espèrent ta chute, peu importe. Tu danseras sur et dans une solitude désertique, les yeux bandés. Si tu le peux, les paupières agrafées. Mais rien, ni surtout les applaudissements ou les rires, n'empêchera que tu ne danses pour ton image. Tu es un artiste, hélas. Tu ne peux plus te refuser le précipice monstrueux de tes yeux. Narcisse danse. Mais c'est d'autre chose que de coquetterie, d'égoïsme et d'amour de soi qu'il s'agit. Si c'était de la mort elle-même. Danse donc seule, pâle, livide, anxieux de plaire ou de déplaire à ton image. Or, c'est ton image qui va danser pour toi. Si ton amour, avec ton adresse et ta ruse, sont assez grands pour découvrir les secrètes possibilités du fil. Si la précision de tes gestes est parfaite, il se précipitera à la rencontre de ton pied, coiffé de cuir. Ce n'est pas toi qui danseras, c'est le fil. Mais si c'est lui qui danse immobile, et si c'est ton image qui le fait bondir, toi, où donc seras-tu? La mort dont je te parle, n'est pas celle qui suivra ta chute, mais celle qui précède ton apparition sur le fil. C'est avant de l'escalader que tu meurs. Celui qui dansera sera mort, décidé à toutes les beautés, capable de toutes.
Il est dingue ce texte. C'est le Funambule de Jean Genet qui est dit par Jean Taupart en 1971. Édouard Baird, pour peut-être continuer de parler avec vous de ce que ce spectacle-là agite de la connaissance de votre propre métier, d'être sur scène, de faire du théâtre, de devoir rejoindre, comme dit Genet, le précipice monstrueux de ses yeux, c'est-à-dire beaucoup de choses qui ont rapport avec la mort, avec le comment on dit quand il y a un truc qui est là et on ne peut pas faire autrement. Inévitable, merci Sonia, ouais. Au casque, avec l'inévitable. Cet homme-là qui a fui, qui presque trouve un refuge dans le théâtre, il n'arrête pas de dire ça. Il recule devant l'obstacle, il recule devant le précipice, il a peur en fait. Tout le temps, il a peur.
Ben c'est, oui, puis c'est un spectacle aussi sur quelqu'un qui a 50 ans, donc qui se dit, parce qu'il cite aussi Bukowski, je cite Bukowski dedans, parce que l'écrivain Charles Bukowski a vraiment, s'est lancé dans la vie à 50 ans, en fait. C'est-à-dire qu'avant, il travaillait au Tripostal. C'était un métier très dur, enfin, il triait des colis toute la journée, bon. Et puis, il écrivait le soir quand il buvait pas, enfin, où il faisait les deux. Et puis, à un moment, à 51 ans, il a démissionné à un an de la retraite. Il a démissionné sans droit de retraite. Parce qu'il explique, sinon j'allais crever. Donc. Et il s'est lancé dans le vide, il a décidé d'essayer de vivre de sa plume. Mais c'est inconsciemment, je me suis dit que j'ai pris des gens je crois que c'est la dernière fois où on peut se dire qu'on peut tenter quelque chose d'autre, quoi, avant que ça soit, c'est la dernière.
Quand la dernière fois?
Non, je crois que 50 ans, c'est la dernière fois où on est encore, on peut tenter quelque chose d'autre. On peut se réinventer, j'ai pas de modèle à 60 ans de gens qui se réinventent.
Non, c'est sûr. Parmi ceux qui nous écoutent ou celles qui nous écoutent.
Non, mais on peut se réinventer psychiquement. Ce qu'on appelle se réinventer, c'est radical. C'est-à-dire, c'est évidemment qu'on peut évoluer, qu'on peut se transformer, qu'on peut évoluer merveilleusement. Mais se réinventer, c'est-à-dire vraiment repartir quasiment géographiquement, changer de métier, changer de vie. Et il y a cette angoisse-là de ce personnage qui se demande s'il s'est trompé de vie.
Et par exemple, vous vous dites peut-être plus de théâtre, plus de cinéma, plus ça, plus tout ça.
Parfois, non, mais moi c'est plus géographique, des choses comme ça. Non, c'est pas... Après, c'est quoi exprimer dans le spectacle, dans ce que je fais? C'est pas les supports. Au contraire, moi, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. J'ai eu la chance de pouvoir faire du cinéma ou du théâtre ou de la radio. Donc, mais c'est ce que j'y fais, ce que je viens. C'est nous dire, bon, à un moment, il faut peut-être, oui, peut-être, ou dans l'intime, ou d'être plus, d'oser plus, quoi. D'oser plus être soi-même, ou peut-être être plus, pas impudique d'une façon pour se faire plaisir, mais pour être plus universel, pour toucher plus les gens, on va oser plus, quoi, voilà.
Vous citez un texte de Romain Gary qui s'appelle « La nuit sera calme », qui est une sorte de face-à-face avec lui-même. Et c'est pas le seul texte que vous citez, mais d'ailleurs, dans la Ouvert la nuit, à un moment donné, cette apparition du chimpanzé que Luigi cherche partout, j'ai pensé à cet homme dans Claire de femme, qui est un dresseur de chimpanzés, Seigneur de caniches roses, ouais. Voilà. Et donc, je me suis dit, finalement, Romain Gary, il est aussi très présent, autant que la guerre, mais bon, il est très lié à la guerre, Édouard Baird, dans ce spectacle-là. Pourquoi il est important pour vous, La nuit sera calme, ce texte de Gary?
Mais d'abord, le personnage de Romain Gary, justement, dans sa fantaisie, dans sa liberté, sa folie, dans son exigence personnelle, dans sa façon d'être un homme, d'être à la fois extrêmement viril et extrêmement féminin, puisque c'est un type qui déteste les valeurs traditionnellement masculines, sur la force, le machin.
Ah oui, c'est marrant, j'aurais cru l'inverse.
Ah oui, il est obsédé par le féminin, Gary. Et je trouve que tout à coup, il a des personnages merveilleux, comme ça, de funambule, c'est souvent des anciens, d'ailleurs, il est lui-même obsédé par les rescapés de la guerre et par les... Il y a un personnage qui s'appelle Le Baron, qui est dans plusieurs de ses livres, qui est une sorte de muet étrange, qui est une sorte de dandy... D'après Cataclysme, bon. Et le Seigneur Galba, oui, c'est ça, à un moment, dans Claire de femme, il y a ce type-là, qui fait le numéro qui est le plus incroyable du monde et le plus épouvantable. Il dresse un singe et un singe et un chien qui dansent ensemble et dit, c'est l'œuvre de ma vie. Alors, le personnage qui est très, très alcoolisé, qui est très bourré, dit, mais je crois que j'ai jamais rien vu de plus beau ou sans doute de plus ignoble de toute ma vie, quoi. C'est que l'œuvre du... Donc, je sais pas, il y a un humour chez Romain Gary, et puis qui se termine par une balle dans la bouche, quoi. Donc ça, c'est un truc... c'est très radical comme humour.
Et la nuit sera calme?
Eh bien, la nuit sera calme. Je trouve que c'est la simplicité de ces mots-là. C'est la force d'évocation quand l'émotion arrive sans qu'on la voie venir. Et je trouve, quand il décrit ce qu'était le bonheur pour lui, quand il dit que c'était d'être allongé, d'attendre, d'entendre la clé dans la serrure, la porte qui se referme, les paquets qu'elle ouvrait...
La mer, hein.
Voilà. Non, pour moi, c'est pas la mer.
Ah ouais?
Ah non. Non. Je trouve
c'est
il a gardé. Ah non, je veux pas que ce soit sa mère. Non. C'est sa femme.
Ah, c'est marrant.
Je trouve qu'il a gardé de l'enfance.
Le soir du spectacle,
moi, je ne veux absolument pas que ce soit sa mère. Si c'est la mère de Gary, ça me fout le cafard. Ce que je trouve beau, c'est un type qui est, c'est un héros de la guerre, un écrivain qui est là, qui s'est construit socialement, qui est un personnage important de la République française. Et le soir, quand sa fiancée, son amoureuse rentre, il se cache dans son lit et il répond pas quand elle l'appelle. Je trouve, c'est gardé de l'enfance.
Je crois que c'était vraiment un espèce de souvenir d'enfance, moi.
Non. Je ne veux pas.
Vous lisez beaucoup?
Non, pas assez.
Vous lisez sur scène?
Non, je lis un peu, mais je radote un peu, je relis les mêmes choses.
Vous voudriez lire plus?
Oui.
Pourquoi vous ne le faites pas?
Parce que j'ai du mal à me concentrer. Ah.
Je veux dédier ce poème à toutes les femmes qu'on aime. Pendant quelques instants secrets, à celles qu'on connaît à peine, qu'un destin différent entraîne et qu'on ne retrouve jamais. À celle qu'on voit apparaître une seconde à sa fenêtre et qui preste s'évanouit, mais dont la svelte silhouette est si gracieuse et fluette qu'on en demeure épanoui. À la compagne de voyage dont les yeux, charmant paysage, font paraître court le chemin. Qu'on est seul, peut-être à comprendre, et qu'on laisse pourtant descendre sans avoir effleuré la main. À celles qui sont déjà prises et qui vivent des heures grises près d'un être trop différent. Vous en inutile folie, laissez voir la mélancolie d'un avenir désespérant. Chères images aperçues, espérance d'un jour déçu, vous serez dans l'oubli demain. Pour peu que le bonheur survienne, il est rare qu'on se souvienne des épisodes du chemin. Mais si l'on a manqué sa vie, on songe avec un peu d'envie à tous ces bonheurs entrevus, aux baisers qu'on n'osa pas prendre, aux cœurs qui doivent vous attendre, aux yeux qu'on n'a jamais revus. Alors, au soir de lassitude, tout en peuplant sa solitude, des fantômes du souvenir, on pleure les lèvres absentes de toutes ces belles passantes que l'on n'a pas su retenir.
Ils sont passablement éméchés sur scène au Théâtre Antoine. Un homme qui est rentré un peu quand même, il a bu dans le bar avec le barman et ils sont assis et ils chantent les paroles de Brassens.
Ah oui, à ce moment-là, ils n'ont pas bu tellement. Non, ça leur revient parce que mon personnage, il se demande dans les moments que, elles sont terribles, les paroles quand il dit, si l'on a manqué sa vie. Voilà. Quand on a manqué.
En fait, en écoutant, pardon de vous couper, Edouard Baird, mais en écoutant, je me suis dit, il y a plusieurs moyens de le prendre. Moi, je l'ai toujours pris comme une sorte de chanson sur le regret. Mais au fait, on peut aussi le prendre comme une chanson sur la légèreté de l'existence. Et que si on a raté sa vie ou pour peupler sa solitude, il y a plein de petits pétales de pollen ou de roses dont on peut s'habiller.
Oui, il y a plein d'interprétations. Mais c'est vrai que moi, ce que j'aime bien, c'est l'idée de toutes les vies possibles. Et parfois, mais même au présent, on croise quelqu'un, on se dit, tiens, c'est une vie possible, quoi. Je pourrais suivre cette personne, je pourrais être là. Parfois, c'est effectivement une fenêtre ou un appartement, on dit, je serais peut-être bien là. Ou on croise une femme, on dit, tiens, peut-être qu'on aurait été heureux ensemble. Alors ça, c'est un peu vertigineux, quoi. C'est des trucs de dire quel hasard fait qu'on vive notre vie, quelle succession de choses, au contraire de courage ou de lâcheté fait qu'on est encore là. Ça, il y a plein de films de Lelouch là-dessus, sur le hasard et la volonté. Mais ce que je trouve, d'ailleurs, c'est très beau que vous interprétiez différemment, parce que même à un moment, je cite dans le spectacle, il y a le je voudrais pas crever de Boris Vian, et quand il est dit par Jean-Louis Trintignant ou par Pierre Brasseur, c'est exactement le contraire de ce que ça dit. Quand Pierre Brasseur dit je voudrais pas crever avant d'avoir connu les chiens noirs d'Afrique, on a l'impression qu'il va les vivre, qu'il va voir, qu'il va encore se régaler. Et après, Trintignant le dit comme s'il faisait ses adieux à la vie, exactement sur le même texte, on entend le contraire.
Est-ce que il vous est arrivé au cours d'une scène qu'un comédien pris par le feu de l'action vraiment improvise à 100%?
Non, pas encore.
Pas encore.
Je crois que ça vient du fait que comme nous ne sommes pas encore assez forts pour ça, si un d'eux faisait ça, se permettait ça risquerait de mettre les autres en danger. C'est-à-dire que ils sont pas encore... Il y avait des comédiens, si vous voulez, au 16e, 17e en Italie, qui étaient capables d'improviser continuellement, tout le temps. Mais ils avaient atteint une virtuosité d'improvisation, une maîtrise dans cet art qui était folle. Alors que nous, pas encore du tout. Alors si tout d'un coup, en plein, dans un spectacle qui quand même maintenant est réglé, un comédien commence à improviser, eh bien, à ce moment-là, il change tout. Et alors ça risque d'être très très... Voilà ce que ça fait. C'est-à-dire qu'un soir, ça risque d'être fantastiquement intéressant. Ça risque d'être génial un soir. Puis le lendemain, ce sera affreux.
C'était il y a 50 ans, 1969, Ariane Mouchkin qui parle de l'improvisation. On nous a dit plusieurs choses avant cette émission. On nous a dit, il va bien être là, il sera à l'heure au studio. On nous a dit, vous pouvez pas passer d'extrait du spectacle parce qu'il improvise. Et surtout, s'il vous plaît, ne dévoilez pas trop. À quel point vous improvisez, Edouard Baer?
Ben c'est un canevas, si vous voulez. Il y a des phrases qu'on écrit au fur et à mesure, que j'écris au fur et à mesure. Les mots sont pas encore tous écrits. Et puis après, ça dépend du public. Il y a des choses que je trouve pendant. Il y a une partie. Le spectacle fait un quart d'heure de plus que le premier jour, en fait. Mais ça, je trouve les choses en les faisant. Je sais pas si, par exemple, là, je me suis aperçu à un moment, je téléphone à mon agent. Il y a mon agent qui m'appelle sur scène, moi, un agent artistique. Bon, c'est pas grave. Et alors, tout à coup, pendant que je lui parle, je l'engueule de pas exister, mais ça, c'est venu au public. Moi, j'étais tellement fou d'être au milieu de la salle avec un téléphone sans fil. La situation était tellement dingue.
Pas le soir de ma venue, par
non.
exemple.
Et je me suis mis à l'engueuler, tout à coup. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu me fais vivre une situation absurde? Je suis dans une salle de gens qui ne m'attendent pas, avec un faux téléphone, en train de parler. Comment tu veux que... Bon, alors, il y a des trucs qu'on trouve comme ça. Puis, comme, il y a un moment, il y a une parodie de Tête de Boulevard et tout ça sur des halos quand on décroche. Bon, j'en trouve un peu. Voilà, mais c'est... Mais parce que là, je mets personne en danger que moi-même, et puis l'auteur, il me laisse faire parce que c'est moi, c'est Bibi. Donc voilà, donc c'est pas. Mais enfin, il y a quand même si il faut que le spectacle tienne. Les soirs, on est moins ou inspiré ou on joue moins avec le public, que le spectacle soit quand même que ça ait lieu quoi.
Et c'est quelque chose que vous aimez depuis toujours?
La liberté, l'improvisation de texte, pas forcément. J'aime bien avoir énormément confiance en un texte et le dire mot à mot. Là, j'ai fait des films de cinéma où j'ai dit le texte d'Emmanuel Mouret qui avait dit Diderot dans la Moselle de Jean Kiatsov. C'est aussi intéressant. Et puis quand j'ai joué une pièce de Fabrice Roger Lacan, le texte était formidable. J'avais pas envie de. Il y a assez de liberté dans le texte pour improviser. Enfin, l'improvisation, ça va être des mouvements, des humeurs, de dire un jour la même scène en riant et en pleurant le lendemain. C'est parce qu'on le sent comme ça. Heureusement, on a assez de liberté.
Parce que c'est quand même souvent quelque chose qu'on dit à votre propos, que en gros on claque les doigts, on lui met un micro, cravate et puis c'est parti, il tient une salle du Festival de Cannes. Je trouve que finalement c'est aussi vous mettre pas mal de pression quoi. Edouard Baer, il peut faire le rigolo quoi.
Oui oui.
Tu lui mets un tapis musical à la radio et puis c'est parti.
Oui oui bon, ça doit être de ma faute, j'ai dû le faire trop. Non mais c'est plus, enfin je sais.
Non, pas mal de pression. C'est un grand mot. Non, oui. Pardon, c'est pas beaucoup de pression.
Non, mais c'est du, je sais pas comment vous dire. Après, c'est, je sais pas pourquoi des choses viennent ou pas. Il y a un côté petit talent de société, comme quelqu'un qui sait bouger ses oreilles. Et puis parfois on s'y est préparé. Vous savez, l'improvisation, ça se prépare. Il faut réfléchir un peu à ce qu'on veut dire. Et puis voilà.
Talent de société, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez grandi avec une aisance de la conversation?
Ben, j'ai écouté. Oui, c'était des gens qui aimaient bien parler. Chez mes parents, et puis après, j'aimais bien me balader dans les rues, dans les cafés. Donc, j'aimais bien écouter, oui. Oui. Peut-être avec des gens qui s'amusaient avec les mots.
C'est-à-dire?
Non, mais je sais pas, c'était pas sérieux, c'était un plaisir, les mots, c'était un jeu, on jouait, pas des jeux de mots au sens calembour, mais c'était pas des conversations, je suis pas habitué aux conversations sérieuses, culturelles ou scientifiques, c'est tout à coup, c'est une sorte de jouissance, de surprendre, ou comme des. Voilà, mais il y a des gens, par exemple.
À table, chez vous, ça parlait, par exemple?
Tout le monde parlait à fois. Tout le monde. Les frères, les sœurs, les parents, tout le monde. C'était à celui qui parlait le plus fort et qu'on mangeait très salement. Et la nourriture, tout ça. J'ai l'impression que c'était un truc. Donc, il fallait exister, il fallait parler plus fort que les autres. Oui. Mais après, moi, j'aime bien les gens comme ça qui n'ont pas un respect total. Des gens comme Benoît Poulvorde et tout ça ont un rapport aux mots qui est délirant parce que c'est toujours... On s'arrête à des images de Poulvorde, oh là là, quel histrion, et parfois tout ça. Mais si on entend ce qu'il dit, c'est extraordinaire, quoi. Le contenu. Mais c'est dit d'une façon tellement
très
légère,
triste,
et drôle, très triste, mais c'est brillantissime, c'est bon. Donc après, de savoir s'il est, bon, il faut pas s'arrêter, de savoir si c'est de l'impro ou pas, ou savoir si Poulvorde est fou ou pas, ou savoir si, Après, il y a des choses plus contrôlées. Fabrice Luchini est très, très brillant dans des choses beaucoup plus précises, avec des citations et tout ça. Mais dans nos métiers, il y a des gens qui ont un rapport au mot qui est amusant, qui est bien.
Et à la radio, puisqu'on y est, et puisque vous en faites tous les dimanches soirs sur France Inter, vous y trouvez quoi comme renouvellement de ce plaisir-là? C'est-à-dire que, est-ce que c'est si différent que d'être autour d'une table dans un bon restaurant à Paris ou ailleurs?
Non. Alors justement, parce qu'il ne faut pas que ce soit un trop bon restaurant, c'est plus un style de vie, c'est d'essayer de faire une table d'hôte qui se baladerait en France. Et c'est ça que j'essaie, c'est une sorte de dimanche soir où je peux avoir la chance de rencontrer des gens que je croiserais pas dans la rue, d'autres régions, d'autres métiers, tout ça, et de leur poser des questions comme je leur poserais dans la vie. Donc mais c'est pas des choses profondes comme vous, c'est des choses de...
Comment ça?
Bah c'est des choses d'instant, ça peut être du petit parler.
Comment ça, on fait pas du petit parler ici?
Non, c'est profond, c'est travaillé chez vous, faut faire gaffe, j'ai mis les patins. C'est une expression de Jean-Pierre Marielle.
Ah non,
Marielle.
On refait tout. Non, je suis désolée, on refait tout.
C'est
Edouard
profond.
Bert, si vous avez
j'ai
mis les patins.
Non, vous connaissez cette expression de Jean-Pierre
je
Marielle.
Dire, si vous êtes rentré dans ce
non,
studio
pas
avec
patins,
vos patins,
regardez,
on refait tout, Edouard Bert.
Je vous assure que non. C'est Jean-Pierre Marielle chez Delphine Seyrig. J'étais intimidé, je mettais pas. Vous avez, je mets pas les patins. Mais c'est intime, vous me faites dire des choses qui sont. Bon, la radio permet ça parce que ça peut pas être pris sur les réseaux sociaux. La radio, c'est formidable. Contrairement. Non, parce qu'il n'y a pas de support visuel, donc c'est bien. Donc on est sauvé. Donc on peut dire des choses qui n'ont lieu que là. Oh, c'est très calculé. Non, mais c'est vrai, on se laisse beaucoup plus aller. La télévision fait très attention. Maintenant, après, c'est écrit aussi parce qu'on photographie un extrait de ce que vous avez dit, c'est repris sur les trucs sur Twitter. Donc vous êtes emprisonné dans un truc qui devrait être qu'un instant, voilà. Tandis que là, c'est un instant. Et tant mieux. Non?
Merci beaucoup, Edouard Bert.
Un bel instant, merci.
Les élucubrations d'un homme soudain frappé par la grâce se jouent en ce moment au Théâtre Antoine à Paris jusqu'à la fin du mois de juin. On pourra vous voir à la télévision parce que vous ouvrez et vous fermez le Festival de Cannes. Donc vous n'y restez pas, vous ne faites que ouvrir et fermer.
Oui, parce que j'emporte les clés, je reviens fermer parce que je joue à Paris entre temps. Oui.
Et tous les dimanches donc sur France Inter et en podcast quand on veut, où on veut.
Je voudrais être ce monsieur qui passe, ce monsieur qui passe sans se presser. Il a le charme des princes de race qu'on a mis au monde tout habillé. Costume en lin, chemise en soie, cravate à pois, chaussures en daim. Ce monsieur-là connaît bien son solfège. Il joue comme un Chopin, des nocturnes en arpège. Coupe au rasoir, ongles soignés, montre en sautoir, parfum discret. Ce monsieur-là a la taille rêvée pour marcher dans la foule sans lever le nez. Et je voudrais être ce monsieur qui passe, ce monsieur qui passe.
Allez, je sais pas, moi, du coup,
hein?
Non, on continue pas.
Je m'appelle plus pas, il me rend fou, Reggiani me rend dingue. On voudrait être Serge Reggiani, non? Commencer une carrière de chanteur à 50 ans.
Je fais générique ou vous chantez?
Des textes comme ça, je sais pas si c'est du Jean-Loup d'Abadie. Ça.
Au son ce soir, c'était Eric Boisset, à la réalisation Sonia Leglen.
Un merci grand Eric, merci Sonia.
Bah ouais, et aussi à Valentin Rémy.
Non, moins.
Ah
non.
Si. Ah bon, à Jeanne Aléos, Romain de Bec de Lièvre, à Marianne Chassor.
Ah
même...
oui, il y a du monde.
Ouais, il y a du monde. On peut même dire qu'il y a Alain Ichoux.
Quoi?
Ouais.
Il est là?
Tout le monde est venu. Complètement dingue. Par les temps qui courent, franceculture.fr, toutes les informations, les musiques, les archives, tout ça, un lien vers le podcast. On est donc mercredi, donc à jeudi.
Et puis j'offre la mienne à n'importe quel prix. Museau fripé, nez en avant, sourcils fâchés, les yeux tombants. Mes folies douces et mes peines de cœur, allez, je brade tout, le pire et le meilleur. Ce monsieur qui passe, ce monsieur qui passe et qui ne sait rien, rien de mes espoirs, rien de mes angoisses, rien de mes révoltes serrées dans mes poings. Je veux une vie où tout soit limpide, où ne traîne pas tant de chiens perdus, tant d'étés fanés, tant de chambres vides, tant d'amour déçu. Ça y est, c'est moi, lui, je passe à sa place, ma peau se défroisse, je deviens charmant. Qu'est-ce que c'est bête enfin, j'ai de l'espace, sa tête au miracle me va comme un gant. Je garde ma Jaguar, mon cher régime, je commande à boire, je me sens hymne. J'ai plus d'idées, enfin je suis tranquille. Les idées, cher Edgar, c'est pour les imbéciles. Je rentre chez moi, enfin chez lui. J'entends une voix, bonsoir chérie. Non, pas sa femme, non, pas sa femme à lui. Non, pas sa femme, pas sa femme à lui. Je ne veux plus être ce monsieur qui passe, et grand bien lui fasse d'être aussi beau. Je lui rends sa femme, ses tableaux de chasse. Je reprends mes billes, rendez-moi ma peau. Monsieur qui passait au regard tranquille, comme je vous plains de n'être pas moi, gardez votre cœur plein d'automobiles, je garde le mien. Je rentre chez moi.